France Musique. Musicopolis. L'opéra de Sydney, bijou australien. Beaucoup de dates pourraient être prises comme point de départ pour raconter l'histoire de l'opéra de Sydney. On pourrait remonter à presque 50 000 ans avant notre ère, puisque déjà à cette lointaine époque, des êtres humains se rendaient à cet endroit particulier pour se réunir, chanter, danser, dire des contes et festoyer. Bon, mais non, je vais plutôt commencer par l'inauguration de ce bijou d'architecture.
I have much pleasure in declaring the Sydney Opera House open.
On n'entend que tous les vents de la baie de Sydney se sont réunis pour participer au discours. C'est Elizabeth II, reine d'Angleterre et reine d'Australie notamment, qui inaugure le bâtiment le 20 octobre 1973, terminant son allocution par ces mots « J'ai le grand plaisir de déclarer l'opéra de Sydney ouvert ». Des milliers de bateaux sillonnent la baie tout autour de la pointe de Bennington où se dresse le nouvel emblème de la ville et du pays. Le soir même, aura lieu un fastueux feu d'artifice avant que l'orchestre et le chœur n'entonnent la 9e symphonie de Beethoven. L'inauguration officielle de l'opéra de Sydney avec discours de la reine Elizabeth II se termine par l'exécution de la 9e symphonie de Beethoven, ce n'est pourtant pas la première fois que les nouveaux murs résonnent de musique. En fait, depuis 3 semaines, la salle est en ordre de marche et des représentations test ont eu lieu. Les autorités avaient commandé un opéra à Peter Sculthorpe, mais l'œuvre n'étant pas prête, il avait fallu trouver un opéra qui se prête à un tel événement. Le choix s'est alors porté sur un ouvrage qui puisse permettre la participation d'un maximum de chanteurs de la compagnie. Cet opéra, dont le livret comporte une liste de 70 personnages, était bien sûr un choix parfait pour inaugurer l'opéra de Sydney. Vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit, voyons. Un opéra du XXe siècle, en anglais ? Oui, on entend en effet un opéra du XXe siècle en anglais. Mais ce n'est pas la langue originale. Il s'agit de « Guerre et paix » de Prokofiev, donné dans la langue du pays de représentation, comme l'a voulu la coutume pendant très très longtemps. L'occasion donc d'entendre et de mettre en valeur un grand nombre de chanteurs de la troupe de l'opéra de Sydney. C'est donc « Guerre et paix » de Prokofiev qui a été choisi pour les premières représentations données à l'Opéra de Sydney avant même l'inauguration en grande pompe par la reine Elisabeth II, fin septembre 1973, le 28 précisément. La salle de l'Opéra n'est que l'une des salles dont dispose le grand complexe connu sous le nom d'Opéra de Sydney. Elle a un peu plus de 1500 places. Mais il y a aussi une salle de concert nettement plus grande qui compte plus de 2000 places. C'est là que, dès le lendemain de la première de Guerre et paix, a lieu un événement de prestige. Charles Mackerras dirige l'Orchestre symphonique de Sydney dans un programme entièrement consacré à Wagner. Charles Mackerras, qui dirige le concert d'ouverture de la grande salle de l'Opéra de Sydney, est australien. Il a fait ses études de musique au Conservatoire de Nouvelle-Galles du Sud et il a commencé sa carrière comme premier hautbois de l'Orchestre symphonique de Sydney, un orchestre avec lequel il a fait aussi ses premières armes de chef. En septembre 1973, voici 2 ans qu'il n'est pas revenu dans son pays, puisqu'il est alors directeur de la compagnie d'opéra Sadler's Wells à Londres. C'est avec une aura acquise à la tête de nombreux orchestres en Europe, notamment à Prague et à Londres, et à New York, que Mackerras revient pour cette occasion spéciale. Avec lui, celle qui est considérée comme la plus grande wagnérienne du moment, la soprano suédoise Birgit Nilsson. Dans le programme du concert d'ouverture de la grande salle de l'Opéra de Sydney, John West, célèbre historien du théâtre et homme de radio, se rappelle une après-midi d'août 1957 dans la salle de l'Hôtel de Ville de Sydney qui servait alors pour les représentations lyriques et dramatiques. Une séance qui réunissait de nombreux citoyens de la ville pour lancer un appel au soutien financier pour le projet d'une grande maison d'opéra. La salle était pleine, écrit-il. La scène couverte d'officiels. Le Premier ministre était là pour annoncer une première généreuse contribution du gouvernement. Beaucoup de gens avaient déjà promis leur propre participation. L'architecte affirmait que les candidats pour le concours avaient travaillé dur dans le monde entier. À présent, l'attente était finie, la décision était prise. « C'est à vous maintenant, a-t-il dit au public, de payer pour construire le bâtiment. » Et la salle a applaudi. C'était une après-midi étrange. On avait la conviction de participer à la création d'un petit moment historique. À la fin de l'après-midi, un quart de million de livres avait été récolté. Une belle contribution au budget prévisionnel qui était alors de 3,5 millions. Son premier orchestre symphonique en 1908. Puis, en 1934, la radio australienne ABC crée son propre orchestre. Et enfin, un troisième, le Sydney Symphony, arrive sur la scène en 1937. 10 ans plus tard, un premier chef en résidence est nommé, Eugène Goossens, compositeur britannique très connu pour promouvoir avec passion la musique moderne. Goossens a de grandes ambitions pour son orchestre qu'il veut amener au niveau des meilleurs du monde. Il convainc d'abord le directeur général de la radio australienne qu'il faut une salle à demeure pour sa formation. Ensuite, au début des années 50, il persuade le premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Joseph Cahill, de la nécessité pour Sydney d'avoir un bâtiment vaste et moderne qui accueille la musique, l'opéra et le théâtre. En 1954, Cahill met en place un comité pour examiner tous les aspects de la question. En premier lieu, il faut trouver le bon endroit pour construire. Thank you. L'endroit choisi pour la construction du futur opéra est un petit cap qui avance dans la mer sur la côte sud de la baie de Sydney. Un endroit que les aborigènes appelaient Toubougoulé, c'est-à-dire là où les eaux de la connaissance se rencontrent. Le lieu s'est ensuite appelé Bennelong Point, quelque temps après l'arrivée des émigrants européens en 1788. Les eaux de la baie l'entourent sur trois côtés et il est bordé par le jardin botanique sur le quatrième. Reste à ouvrir un concours international pour le bâtiment. ...223 projets ont concouru pour l'Opéra de Sydney. Nous sommes en 1956 et l'époque est aux formes modernistes épurées, beaucoup de rectangles et de carrés. Le projet numéro 218, envoyé dans les derniers jours par un jeune architecte danois, Jørn Utzon, va retenir l'attention, justement parce qu'il est très différent, avec ses emboîtements de gros coquillages. C'est lui qui remporte le concours. On est en 1957, et 3 ans de travaux sont prévus pour une somme de 3,5 millions de livres, 7 millions de dollars. Lorsque Jørn Utzon remporte le concours pour l'Opéra de Sydney, beaucoup de points techniques ne sont pas encore résolus. C'est la silhouette du bâtiment qui a séduit le jury, le caractère très vivant de cette architecture qui tire magnifiquement parti du lieu. Mais il va falloir à présent trouver comment le construire. D'abord, le terrain s'avère très différent de ce qu'on imaginait et les fondations devront être beaucoup plus importantes. Ensuite, ces coques, toutes différentes, s'avèrent très difficiles à concevoir concrètement pour les ingénieurs. Jusqu'à ce qu'après plusieurs années de recherche de son équipe, Utzon ait enfin la révélation. Toutes les coques peuvent être dérivées d'une même sphère. Il y a entre elles une unité mathématique. À partir de ce moment, la construction des voûtes peut commencer. Mais en 1966, on a déjà 5 ans de retard et un budget explosé. Alors que l'intérieur n'est pas commencé, des dissensions entre Utzon et la ville de Sydney vont provoquer la démission de l'architecte.
Thank you.
Après la démission de Jørn Utzon, une nouvelle équipe d'architectes va se charger de l'intérieur du bâtiment de l'Opéra de Sydney. Le premier ministre de l'époque décide que, contrairement au projet initial, la plus grande salle ne sera pas dévolue à l'opéra, mais au concert. Une décision aujourd'hui regrettée, tout comme le résultat acoustique qui ne correspond pas à ce qu'avait prévu Utzon. Le 20 octobre 1973, lors de l'inauguration officielle de l'Opéra de Sydney, l'architecte Jørn Utzon n'a pas été invité et son nom n'est pas mentionné dans les discours. Il ne reviendra jamais en Australie, il ne verra jamais son œuvre achevée. En 1999, toutefois, il recommencera à collaborer sur des projets de restauration du bâtiment, mais sans faire le voyage. Il aura la satisfaction de voir sa création consacrée par l'UNESCO en 2007 et inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Son œuvre est devenue l'emblème de Sydney et même de l'Australie. Certes, le budget de construction est passé de 7 à 107 millions de dollars, mais le bâtiment est aujourd'hui visité par 8 millions de personnes chaque année. La dernière scène de Guerre et paix de Serge Prokofiev, enregistrée le 28 septembre 1973 à l'Opéra de Sydney avec The Australian Opera Chorus, The Elizabethan Trust Sydney Orchestra, dirigé par Edward Downes. Le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches, Hortense Leblouch pour le site, Philippe Petit pour la réalisation et Philippe Thibault pour le mixage. À réécouter sur francemusique.fr.